Et 9h06 sur France Culture, c'est l'heure de la fabrique de l'histoire avec vous, Emmanuel Laurentin. Bonjour.
Bonjour, Sophie Delpont.
Alors, une page de notre histoire se tourne à France Culture 20 ans après ses débuts.
Oui,
si, tout de même, Emmanuel. Ouais. C'est le dernier numéro de votre émission.
Exactement. Et nous allons recevoir trois jeunes historiennes et historiens qui sont apprentis historiens puisqu'ils sont en licence ou en master. Et nous allons discuter avec eux et avec toute l'équipe de la fabrique de l'histoire de quelques extraits de nos archives de la fabrique pour pouvoir savoir ce que nous avons raconté de l'histoire pendant 20 ans. Dernier temps de la fabrique de l'histoire en ce vendredi et pour cette dernière un pari sur la vingtaine puisque la fabrique aura duré 20 ans et que nous recevons aujourd'hui des jeunes historiennes et historiens de 20 ans et légèrement plus. La nouvelle fabrique
de l'histoire. Mon histoire.
Ton histoire.
Son histoire. Notre histoire.
Votre histoire.
Leur histoire.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Chaque jour, dans le monde, quelqu'un commémore quelque chose.
Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour la commémoration du 80e anniversaire de la première bataille de la Marne.
Vous l'aurez compris, toute cette émission sera émaillée d'archives de l'émission choisie et commentée par l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Et on a entendu par exemple cet extrait de ce feuilleton commémoratif qui était à l'origine de la première fabrique quotidienne. C'était en 2004. Nous aurons le plaisir d'accueillir également trois jeunes historiennes et historiens, étudiants en licence et en master d'histoire. Il et elle s'appellent Chloé Lorille, étudiant en licence 3 à Sciences Po, Mathilde Castéran, étudiante en master d'histoire à Paris 1, et Darius Riazi, étudiant en histoire à Paris 1. Bienvenue à vous, bonjour à vous. Mathilde Castéran, bonjour.
Bonjour.
Chloé Lorille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la benjamine de cette émission.
C'est ça.
Vous avez 20 ans cette année.
Oui,
l'âge de la fabrique.
Juste finir ma licence.
Et Darius Riazi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord commencer avec vous avant d'écouter quelques archives et de vous les faire commenter si vous voulez bien, en vous demandant tout simplement pourquoi on s'engage aujourd'hui, quand on a 20 ans et un tout petit peu plus, dans des études d'histoire. Je vais commencer avec vous, Mathilde Castéran.
Pourquoi on s'engage dans des études d'histoire quand on a 20 ans? Ça vient certainement aussi d'un goût pour l'histoire. En tout cas pour moi, c'est un goût pour l'histoire depuis que je suis toute petite. Et ensuite, c'est aussi la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, je fais de l'histoire de l'Asie. Et c'est de voir de nouvelles choses, en quelque sorte. Et pouvoir aussi...
D'aller sur de nouveaux terrains.
D'aller sur de nouveaux terrains et... d'apporter un peu sa petite pierre à un très grand édifice.
Oui, et pour vous, Darius Riazi, pourquoi vous êtes intéressé en particulier au mandat britannique sur l'Inde et à la place des communautés en Inde au 19e siècle? C'est votre travail de Master 2?
C'est ça. Alors moi, l'histoire, c'est très amusant, parce qu'enfant, moi, j'avais un appétit insatiable pour les dates. Donc c'est via les dates, c'est les faits historiques que je me suis passionné pour l'histoire. Et après, j'ai compris que c'était une véritable démarche intellectuelle avec une méthode spécifique à suivre. Et oui, en ce qui concerne l'étude de l'histoire, je pense que c'est vraiment comprendre les enjeux du monde contemporain et ce qu'on vit actuellement. Bon, moi, pour l'exemple du cas indien, c'est vrai qu'on ne peut comprendre le nationalisme hindou aujourd'hui qu'à travers l'impact de l'idéologie coloniale dans le sous-continent.
Et donc, on y reviendra avec vous. Et pour vous, Chloé Lorille, donc vous êtes en L3, donc en licence 3, et vous allez entamer une démarche de recherche. Vous ne savez pas encore très bien sur quel sujet.
Non, et je ne sais pas encore très bien non plus si c'est quelque chose qui va forcément me plaire. Donc, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais me lancer dans ce chemin qui est si difficile? Et je ne sais pas si j'ai une réponse beaucoup plus compliquée que parce que c'est ma passion, en fait.
c'est déjà une assez bonne réponse.
Oui, je crois que j'ai juste envie de trouver un sujet qui me passionne, pouvoir le faire des recherches dessus à fond et vraiment aller au fond des choses avec un sujet qui soit le mien.
Anaïs Quin, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
La dernière fois, on se dit bonjour au micro, voilà. Anaïs. Et donc, en l'occurrence, vous avez commencé à écouter La Fabrique quand vous étiez justement en master.
Absolument. À la fin de mon master, j'allais commencer une thèse et pendant mes recherches à l'INA, je suis tombée sur un documentaire sur les radios libres et c'était mon sujet de recherche. Et j'étais très heureuse de pouvoir entendre quelque chose qui traitait de ce sujet de recherche qui n'était absolument pas couvert à ce moment-là. Donc j'avais très peu même d'ouvrages ou d'autres recherches. Et tout à coup, incarné grâce à La Fabrique de l'Histoire, il y avait des témoignages, il y avait un début d'analyse de ce qu'avait été ce mouvement des radios libres. Et je crois que ce documentaire avait été fait par vous, Emmanuel Laurentin, et
sûrement.
Amélie Meffre.
Oui, exactement, avec Amélie qui est ici présente et qui parlera tout à l'heure. Chloé Lery, vous écoutez la radio, vous écoutez la radio de l'Histoire ou pas?
Oui, un petit peu.
Ouais.
J'écoute un petit peu, en particulier l'émission du vendredi sur l'actualité et la manière dont elle est analysée grâce à l'histoire.
Et pour vous, Mathilde Casteran, la radio, oui. ça entre dans votre champ d'écoute? Parce qu'une des questions tout de même, c'est qu'on se dit, mais ils sont très jeunes, ils n'écoutent plus la radio. Vous écoutez encore la radio?
Oui, moi j'écoute encore la radio.
C'est un plaisir. On va vous garder sous un globe comme dans un musée. En l'occurrence, on nous répète tout le temps que les jeunes n'écoutent plus la radio. Donc vous écoutez la radio.
Enfin, j'écoute plutôt des podcasts, mais c'est quand même écouter la radio.
Exactement. Et pour vous, Dario Ciazzi?
Oui, bien sûr, ça m'arrive également.
Ouais.
Surtout des émissions historiques, puis de la géopolitique aussi.
Alors, on va commencer à écouter quelques archives de cette même radio. On va le faire avec vous, Catherine Decopé, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
On vous connaît donc dans La Fabrique, en particulier pour tout le travail que vous avez mené ces dernières années sur La Fabrique de l'Autre, mais vous avez conçu également des documentaires, et le prochain d'ailleurs sera diffusé
dès lundi. Le dernier.
Dans La Fabrique de l'Histoire, le dernier, donc en l'occurrence c'est sur Plomeur Baudou. Mais là, vous étiez parti du côté de Parly 2, parce qu'il faut tout de même dire que c'est sûrement un effet de source, un effet de génération. Nous avons été très attentifs, et en particulier moi, aux années 1960 qui m'ont vu naître, et vous avez fait beaucoup de sujets. On peut penser aussi au sujet de Perrine Kervran sur l'urbanisme dans Paris et aux alentours de Paris dans ces mêmes années 60. Vous avez fait un sujet sur Parly 2, on en écoute un extrait, on le commande ensuite.
L'ouverture, c'était formidable. On avait deux orchestres qui jouaient dans notre magasin. Enfin, il y avait un monde fou. Et puis, c'était vraiment la première fois, enfin, le premier centre commercial qui ouvrait en Europe. Tout le monde voulait voir, tout le monde venait pour voir ce que c'était.
Et par la suite, il y a eu d'autres animations marquantes?
Les défilés de mode, oui, entre autres. Et puis, tous les visiteurs étrangers qui venaient pour voir... Vraiment, ce qui se passait ici, c'était...
Les premières soldes aussi, ça a été extraordinaire. Parce que c'est pareil, ils n'avaient jamais vu ça. Et moi, j'avais eu une idée, c'est de sortir les vêtements, enfin la marchandise dehors, sur le mall. Et après, tout le monde nous avait copiés. Et ça a été extraordinaire, parce que les soldes, quand il faut vraiment entrer dans la boutique et tout ça, c'est différent, c'est pas la même ambiance que quand on fouille dehors.
Il y avait un immense tableau. C'était un petit peu comme la bourse à l'ancienne, où tous les gens crient, et c'est celui qui crie le plus fort, qui achète le plus de paquets d'actions. Et à l'époque, papa faisait ses achats lui-même dans les anciennes halles, et quand il avait la chance de faire une touche, il achetait par exemple 300 lapins. Vite, on envoyait un débouché au grand tableau pour dire « ça y est, il y a un arrivage de lapins aux boucheries nivernaises ». Au lieu de le vendre 5 francs le kilo, les boucheries nivernaises le vendent pendant une heure 3 francs le kilo. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et les clients sont extrêmement réceptifs à ça. Et tout ça, ça se passait dans une ambiance de marché un petit peu survolté, qu'on peut retrouver encore certaines fois. Plus à Parly 2, c'est beaucoup plus policé maintenant.
Quel plaisir de tout emporter sans avoir jamais à sortir son porte-monnaie.
À Parly 2, même l'argent ne sera plus de l'argent.
Et oui, même l'argent ce ne sera plus de l'argent. Alors l'histoire de Parly 2, c'est l'histoire, Emmanuel, du premier centre commercial français en 1969 qui ouvre ses portes dans les Yvelines et qui nous vend complètement le rêve américain.
Exactement.
C'est-à-dire un mall avec des boutiques de luxe, des défilés de mode. Et c'est le bonheur, en fait. C'est le bonheur d'acheter, c'est le bonheur de dépenser. Et les commerçants qu'on a entendus dans l'extrait avaient une boutique western, donc ça donne un peu une idée de la ringardise aujourd'hui, mais qui vendait des jeans, des bottes, même à Johnny Hallyday, il m'avait confié à l'époque. Et ce qu'on a entendu aussi un peu dans l'extrait, c'est tout l'effort de réalisation Dan Fleury qui a été vraiment super sur ce travail.
Qui est si modeste qu'elle est derrière la vitre pour réaliser cette dernière émission.
Parce que là où on s'est un peu amusé, c'est qu'on a retrouvé donc des publicités sonores de l'époque qu'on a entendues là, mm-hmm. complètement délirantes sur la carte bleue qui est vraiment l'outil incroyable de la modernité. Et on avait aussi retrouvé des publicités papier lues par Nathalie Canoui, donc qui a beaucoup participé aussi à l'émission, et avec sa voix années 60, c'était vraiment parfait pour ce projet. Et alors moi, je suis pas du tout une défenseur de la société de consommation, mais on a vraiment pris beaucoup de plaisir à raconter ce délire Parly 2, qui était aussi un complexe immobilier où finalement les gens se retrouvaient avec un appartement, un centre commercial, une piscine, et tout ça à quelques kilomètres de Paris. Ça devait s'appeler Parly 2 au départ.
Ouais. Et voilà. Donc effectivement, ce Parly 2, c'était ça faisait partie des longues émissions que nous avons consacrées à ces années 1960. Il faut reconnaître effectivement que le temps avançant, les témoins des périodes précédentes étaient de plus en plus rares, mais que néanmoins, nous avons continué à travailler sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre d'Espagne, sur également l'après-Seconde Guerre mondiale, et aussi les guerres coloniales, que ce soit la guerre d'Algérie ou encore la guerre d'Indochine. Vous vouliez nous parler, sans extrait sonore, Anaïs Quin, de Paula.
Paula, alors j'aurais pu vous raconter le jour où pendant un enregistrement j'ai failli mourir dans une ferme taurine en Camargue attaquée par des moustiques géants.
Vous travaillez sur le western français.
Absolument. Mais l'esprit de sérieux l'a emporté et j'ai décidé de vous parler de Paula comme un des documentaires les plus marquants de ces dernières années. C'était un documentaire que j'ai fait avec Anne Fleury, mais au départ ça n'était pas un documentaire. Paula était la grand-mère d'une de mes amies, c'était une rescapée d'Auschwitz. Sa famille m'avait demandé de l'enregistrer puis je n'y arrivais pas. Donc je m'interrogeais un petit peu sur ses réticences parce que finalement des gens j'en avais énormément interrogé, donc pourquoi celle-là je n'y arrivais pas. Et puis en manière de faire diversion et pour comprendre peut-être aussi, j'ai commencé une enquête sur tous ceux qui avaient interrogé les rescapés de la Shoah. Ceux qui avaient fait les campagnes de l'INA, les campagnes américaines, les grandes campagnes Schindler, ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure de mon enquête, pour faire diversion toujours dans mon incapacité à faire cette interview avec cette grand-mère Paula, j'ai décidé qu'il y avait matière à faire un documentaire parce que j'ai compris, parce que ces gens n'avaient jamais été interviewés avant, parce qu'on ne leur avait jamais demandé ce que ça leur avait fait à eux de recueillir cette parole, de s'interroger sur la parole, sur les conditions d'enregistrement de ces paroles, sur le pouvoir de transformation d'un côté comme de l'autre du micro lorsqu'on fait témoigner quelqu'un. Et donc je voulais vous parler de ce documentaire ce matin parce que ce jour-là, j'ai peut-être encore mieux compris ce qu'on avait fait depuis 15 ans dans la fabrique de l'histoire.
Ce sont des choses qu'on comprend au fur et à mesure effectivement qu'on interroge des témoins qui n'ont jamais parlé, que ce soit sur des sujets de guerre coloniale ou encore de périodes plus récentes, effectivement qui nous... explique en fait au bout du compte combien cette parole est rare et aussi très importante pour pouvoir faire comprendre aux auditeurs ce qu'est justement l'histoire en train de se faire. Darius Razi, vous n'aurez pas ce problème-là puisque vous travaillez sur le 19e siècle, mais pour vous, Mathilde Casteran, ou peut-être vous, quand vous vous lancerez Chloé Lory dans la recherche dès l'année prochaine, vous aurez ce problème de avoir des témoins vivants. Qu'est-ce qu'on en fait de ces témoins vivants, Mathilde Casteran? Vous travaillez sur la guerre entre le Kampuchea et le Vietnam, donc, et les oppositions qu'il y a dans cette péninsule indochinoise autour de ces questions de ces pays dans les années 80. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, de cette parole-là?
Pour l'instant, je ne pourrais pas trop répondre parce que pour cette première année, j'ai décidé, comme c'est comme mon sujet est spécifique à la question encorienne, enfin sur encore, j'ai préféré avoir un très grand panorama et avoir des dates fixes et bien comprendre comment ça s'était passé avant d'aller voir en fait des témoins ou des acteurs directs
du conflit.
Du conflit en quelque sorte. Oui.
Et pour vous, vous y pensez, Chloé Lory, dans votre travail de recherche à venir?
Oui, l'histoire orale, c'est quelque chose auquel je pense parce que je me dirige plutôt vers l'histoire des sensibilités et des émotions. Donc faire de l'histoire ultra contemporaine dans ce contexte, c'est utiliser des témoignages, c'est une facilité et en même temps c'est une difficulté parce qu'il faut bien sûr savoir les interpréter et les analyser avec une certaine distance.
Vous êtes dans le bon endroit pour l'histoire des émotions aujourd'hui en tous les cas. Merci. Donc deuxième extrait de cette émission d'archives avec vous, Thomas Duterre.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes réalisateur à la Fabrique de l'Histoire. Vous avez choisi de nous parler d'un documentaire que vous avez réalisé pour donc et avec Amélie Meffre sur le rock alternatif. Qu'est-ce que c'est?
Bah déjà, c'est la première fois où on se dit bonjour, et ce sera la dernière en direct à la radio et dans la Fabrique de l'Histoire.
Oui, c'est déjà pas mal, effectivement.
Pourquoi j'ai choisi ? C'est parce qu'en fait, il y a trois histoires.
Il faut dire que généralement, les réalisateurs ne parlent pas. Voilà. Ils sont derrière.
C'est la première, je vous demande un peu d'indulgence. En fait, non, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait trois histoires en fait, dans ce documentaire. Déjà, l'histoire du documentaire, parce que c'était une après-midi sous la neige, où on a passé un moment merveilleux en banlieue avec Pat Kebra, qui était le chanteur du groupe Oberkampf, un ancien groupe de punk donc des années 80. Et que c'était un moment très touchant parce qu'il exhumait ses archives, ses fanzines, ses cassettes, ses vinyles dans sa cave. Et en fait, ça croisait aussi mon histoire personnelle, parce que moi, je suis arrivé à la fin de cette histoire-là dans les années 89. J'étais au concert des Bérus à l'Olympia, Bérurier Noir pour ceux qui connaissent pas. Donc, en fait, ça c'était la petite histoire du documentaire, la grande histoire du rock, parce que ça s'inscrivait dans l'histoire du rock anglais qui avait démarré avant, qui était arrivé en France. Et puis c'était ces petits gars, Pat Kebra, les Bérus et les autres, qui essayaient de faire vivre le rock alternatif en France. Et je vous remercie de m'avoir permis de participer à cette aventure, et je remercie Amélie également.
Qui interviendra tout à l'heure, mais on écoute un extrait justement de ce documentaire.
Tous les best et rock et folk de l'époque. Voilà, il y a les fanzines, il y a plein de trucs. Voilà, ça on avait un article dedans, ouais.
Ça c'est quoi alors ?
Ça c'est vinyle, on a sorti la Marseillaise là-dedans. Ça c'était When You Wave, ça aussi c'est un fanzine. Ouais, les fanzines sont là-haut. Il n'y avait rien de formaté en fait. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, faisaient n'importe quoi. Ma période c'est 77-85. Oui. Alors on est mort en 85 et après j'ai arrêté.
Bon, alors j'ai avant d'arriver à la fin, on va commencer par le début.
Par le début. Les premières autoproductions arrivaient en Angleterre avec les Stiff Little Fingers, Rough Trade, des labels anglais qui étaient dans le do-it-yourself, quoi. C'était les premières étincelles. Et donc, du coup, nous, on était rejetés de partout. À chaque fois qu'on amenait une cassette dans une maison de disques, tout ça, on se faisait jeter. Donc, on se dit, tiens, bah, si on faisait le disque nous-mêmes. J'en parle au gars en faisant du stop. Et quelques jours après, il laisse un message chez mes parents. Il voulait nous produire notre disque parce qu'il venait d'hériter. Et donc, ce gars qui s'appelait Christophe Bourraguet nous a permis d'enregistrer ce maxi 45 tours. Et l'ingénieur du son qu'on avait n'avait jamais touché une table, ça on le savait pas. Parce que en fait, on se baptisait guitariste, chanteur, manager, mais en fait, il y avait personne d'expérimenté. Et les ingénieurs du son, encore moins que nous. Donc, on se retrouvait avec des sons... qui n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on écoutait, parce que ça, on savait faire la différence entre l'album des Clash et le maxi 45 tours de Oberkampf. Et on était toujours déçus, en fait, de ce qu'on enregistrait jusqu'au bout.
Voilà donc pour ce documentaire que vous aviez réalisé avec Amélie Meffre sur le rock alternatif. Il faut dire que ça fait partie aussi des constantes, c'est sûrement aussi dû à une génération. On n'a pas beaucoup parlé du punk, beaucoup du rock, beaucoup des musiques populaires ou encore des cabarets arabes. Ça fait de la bonne radio, effectivement, toutes ces musiques, mais ça fait aussi, effectivement, une histoire populaire de cette période des années 60-70 et du début des années 80. Bonjour Christine Robert.
Bonjour Emmanuel. Moi aussi, c'est la première fois qu'on se dit bonjour au micro.
Exactement. Vous faisiez partie de la première équipe de réalisation de la fabrique. C'était en 1999.
Il est 15h. En ce 6 septembre 1999, vous entrez avec nous dans la fabrique de l'histoire.
Si je me souviens bien, c'est le 5 septembre 60 qu'a été porté à la connaissance du public par le journal Le Monde une déclaration qui très rapidement a été appelée un manifeste, le manifeste des 121.
« Bonjour à tous. Donc, la Fabrique de l'Histoire, c'est d'abord un lieu, un endroit que chaque lundi après-midi, nous vous invitons à parcourir avec nous. Je suis pour l'instant dans le hall de cette fabrique qui abrite entre ses murs un grand nombre de salles dédiées chacune à un aspect de notre mémoire contemporaine. Des salles où l'on débattra ou bien qui permettront d'écouter des documents, des archives et des documentaires d'histoire. Car la Fabrique de l'Histoire s'intéresse bien sûr à notre passé, mais s'interroge surtout sur la mémoire dont celui-ci nous aide ou ne nous aide pas à vivre aujourd'hui. À quoi sert notre passé commun ou particulier? Comment l'appréhendons-nous? Quel héros, quelle histoire, quel mythe allons-nous y chercher pour justifier ou pour comprendre notre société d'aujourd'hui? Dans la Fabrique, nous parlerons archéologie, actualité, mémoire, et nous chercherons à relier cette mémoire fidèle au passé de nos familles, de nos nations, de nos classes sociales, avec une histoire qui vient constamment la bousculer par son ambition scientifique et par la rigueur de ses analyses.
Voilà, donc c'était le générique de la première Fabrique de l'Histoire, Christine Robert. Vous l'aviez composée avec toute l'équipe de la Fabrique.
Véronique Amandou, qui est pas parmi nous.
On salue, qui ne peut pas être avec nous puisqu'elle était à Tel Aviv en reportage pour France Culture, en l'occurrence. Mais néanmoins, j'ai dit en l'occurrence, combien de fois je dis en l'occurrence par émission?
Beaucoup, on les a beaucoup coupés après.
Donc, en l'occurrence, vous étiez dans cette première équipe. On était dans une équipe antérieure puisqu'on travaillait à l'Histoire en direct auparavant. Et un jour, on nous a dit, vous allez faire une émission de 2h30. Le lundi après-midi, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et oui, et donc Emmanuel, je te vois, je vais tutoyer hein, parce que tout le monde, tous les auditeurs croient qu'on se vous voit, mais pas du tout. On se connaît tous, d'ailleurs depuis 20 ans et plus, nous Emmanuel. Donc un jour, je te vois arriver avec un plan. Bon, on devait faire de la radio, donc je te vois arriver avec un plan d'une espèce d'usine, un peu 19e, un peu une usine textile à Roubaix avec des pièces. Et tu me dis, enfin, tu nous dis à Véronique et à moi, voilà à quoi va ressembler la fabrique. Ça va être des pièces, j'aimerais qu'on circule dans des pièces, mais comment rendre ça de façon radiophonique? Bon. Donc, nous qui réalisons, voilà, on a été un peu, on a eu un grand blanc, là, on s'est demandé quoi faire avec ce plan, il était très beau, des poutrelles métalliques. Et de là, on a commencé à imaginer ce générique, évidemment très vite, on avait peu de temps, comme d'habitude. Et donc, on est parti sur des portes un peu symboliques, avec cette musique qu'on vient d'entendre. Bon, voilà, toi.
Et puis, le grand hall, effectivement, qui a fait beaucoup rire les techniciens de la radio, puisque je sortais dans le couloir du studio, et j'étais avec un micro, et donc cet écho qui permettait d'imaginer un espace sonore bien plus vaste que le couloir en question. Et ensuite, on entrait dans des salles. Parmi ces salles, il y avait la vôtre. Vincent Charpentier.
Bonjour Emmanuel.
Le salon noir.
Bonjour Emmanuel. Non, vous m'aviez proposé la salle des stratigraphies, les sous-sols de la Fabrique de l'Histoire.
C'est ça, ouais.
Et j'avais dit non, c'est absolument pas possible.
Parce que c'est l'archéologie.
Voilà, on va appeler ça le salon noir.
Quand je vous ai dit le salon noir, pourquoi le salon noir? Vous m'avez dit, oui, parce que l'archéologie, c'est scientifique et vous êtes en train de la réannexer à l'histoire. Et c'est donc un petit diverticule au fond de la grotte de Niaud qui s'appelle le salon noir. C'est pour ça qu'on va appeler ça le salon noir. Ça a duré longtemps d'ailleurs.
Oui, puis il y a eu aussi, il y a la référence aussi à Herculanum, le salon noir d'Herculanum.
Voilà, et bien, c'était effectivement la première fabrique, celle entre 1999 et 2004. Et puis après 2004, nous avons tenter d'inventer des formes radiophoniques, parmi elles, eh bien, des feuilletons.
Alors, les premiers chariots ont été en fait déchargés parce que le camion était trop étroit. Un deuxième camion, donc un peu plus grand, vient donc se garer. Ça y est, Emmanuel Rousseau, le deuxième camion a été rechargé.
Ça y est, je crois que le deuxième camion est chargé. Nous allons effectivement pouvoir partir pour Pierrefitte.
Alors, il faut sceller.
Voilà. On va sceller le premier camion. Donc, c'est un scellé en plastique qui porte un numéro. Et puis, arrivé à Pierrefitte, nous vérifierons l'intégrité du scellé. A priori, il ne doit pas y avoir de problème. Le camion n'est pas censé s'arrêter en dehors des feux rouges et des stops. Donc, voilà.
Alors voilà, Vincent boite.
Alors là, c'est plus que la première pierre.
Porte le scellé, parce que le camion va être scellé. Et c'est Agnès Magnin, la directrice des archives, qui va mettre ce premier scellé, ce premier chargement.
Allez, je mets.
Voilà, ça y est. On est donc le 22 mai, il est 9h, plein de photos.
Je monte avec vous, Emmanuel Rousseau.
Voilà,
vous m'emmenez dans
le premier camion.
Dans le premier camion. Voilà. J'ai une chance inouïe. Bien
sûr, on prend photo aussi. Dans l'idéal, à mon avis, il faut sortir là à droite. Voilà le bâtiment.
On nous attend là, je crois. Ça y est.
Oh, c'est génial. Hein.
Ça y est.
Formidable. On y est. Donc là, nous sommes contre le quai de déchargement numéro 1. On va pouvoir déceler le camion et procéder au déchargement des armoires roulantes que vous avez vu charger tout à l'heure.
Donc Emmanuel Rousseau signe le papier de réception. À vous l'honneur.
Je vais le garder en souvenir.
Séverine Liattard, Véronique Samouilov.
Voilà, un extrait du feuilleton sur le déménagement des archives nationales à Pierrefitte avec vous, Séverine Liattard, qui faisait partie, vous aussi, de cette première équipe de la Fabrique de
l'Histoire. Oui, alors j'y reviendrai peut-être un petit peu. En tous les cas, l'extrait que nous venons d'entendre, effectivement, extrêmement stimulant, suivre le déménagement d'une institution comme les archives nationales, de l'inauguration, le gigot bitume, et je me souviens, on y était, Renaud, on y était ensemble. À l'arrivée des premiers cartons sur place, on le comprend, scellés, avec les camions scellés également. Et donc, et c'était vraiment l'occasion de faire connaître une institution comme les archives, son fonctionnement, ses missions, hein, collecter, classer, conserver, communiquer. Et donc chaque semaine, avec des reportages et la complicité évidemment de tous les chargés de réalisation de la Fabrique de l'Histoire, et ben voilà, je suis allée solliciter des responsables, par exemple, des différents fonds aux archives nationales, comme la série F17 sur l'instruction publique, les fichiers de dénaturalisation, visiter la grande annexe de Fontainebleau, parler du reconditionnement des archives, du centre de nomastique, de la restauration des sceaux, des ateliers pédagogiques à destination des scolaires, des expositions également organisées. Et puis aussi, j'ai interviewé des lecteurs qui étaient là en quête d'histoire. Donc, je remercie aussi vraiment, c'est aussi avec la complicité de Jean-François Quemin, à l'époque qui était à la communication des Archives nationales, et de Yann Potin, qui m'ont permis d'aller dans les lieux où jamais je ne serais allée, et j'espère en avoir fait profiter tous les auditeurs.
Et avec la vertu aussi de ces feuilletons qui étaient de suivre sur la longueur. Il y avait un autre feuilleton que vous aviez créé qui n'était pas vraiment sous forme de feuilleton, mais vous avez suivi des masterants.
C'était un an pour une maîtrise d'histoire. Et donc, j'avais suivi une étudiante avec Christine Robert. Toute l'année, j'avais suivi. Et après, on avait fait un documentaire.
À partir de ce travail sur le long cours.
Sur le long cours, voilà,
et
tout
puis,
à fait.
Et puis, je vous dois quand même une fière chandelle parce que j'étais un gros crétin sur l'histoire du genre avant de vous connaître. Je peux le dire parce que je disais à peu près n'importe quoi sur l'histoire du genre. Et c'est grâce à vous qu'on a fait la première émission sur l'histoire du genre dans la Fabrique de l'Histoire. C'était dès la première saison, entre 99 et 2000, parce que vous étiez historienne de l'histoire des femmes et du
féminisme. Alors, il faut dire que moi, j'ai fait ma thèse à la Fabrique de l'Histoire. Voilà, j'ai achevé ma thèse à la Fabrique de l'Histoire et donc c'était extrêmement stimulant, à la fois pour mes recherches personnelles de travailler à la Fabrique de l'Histoire, et puis j'espère aussi que mes recherches étaient aussi stimulantes pour l'émission elle-même. Et
oui, parce que c'est cette interaction aussi, c'est de proposer des choses à la radio, de faire entendre des voix, de faire entendre des réflexions, et puis ensuite de voir comment, peut-être de l'autre côté, on en fait quelque chose. Cette question des archives, vous la posez, par exemple, Darius Riazi, vos archives, elles ne sont pas du côté de Pierrefitte.
Non, pas du tout. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, les archives, c'est un peu... C'est très important dans notre travail. C'est ce qui fait aussi le corps, la valeur ajoutée du...
Vous lisez quoi alors? Parce que travailler sur la communauté ourdou en Inde au 19e siècle, c'est...
Alors moi, pour le coup, c'est des rapports d'éducation de l'époque coloniale. Donc, rédigés en anglais. Bon. Parfois écrits à la main. Enfin, la plupart écrits à la main. Ça a été des escapades à Londres et aussi en Écosse pour consulter ces rapports d'éducation.
Et pour vous, Mathilde Casteran, qui travaillait donc sur la péninsule indochinoise et les conflits vietnamo-cambodgiens?
Moi, mes archives principales sont l'UNESCO, comme je travaille donc sur Angkor et pas seulement sur le conflit. Et après, c'est les archives de la Courneuve, principalement, et pas les archives nationales.
Et pour vous, Chloé, vous ne savez pas encore quelles archives vous allez fréquenter.
Pas du tout.
Et vous les avez déjà fréquentées en L3, en licence, ou pas encore?
Non, pas encore. Mais
donc ça va être vraiment l'apprentissage de la recherche la prochaine fois. Alors, parmi les formes que nous avions dans la fabrique de l'histoire, il y avait les balades. Nous avons commencé très tôt à faire des balades dans des lieux d'histoire, que ce soit au Louvre, à l'Assemblée nationale, ou encore dans des grands lieux emblématiques de la République. Et ces balades ont donné lieu à des suites, pourrait-on dire. Et nous sommes avec vous pour en écouter un extrait. Renaud Dalmar, vous aussi, vous n'avez pas l'habitude de parler au micro.
Non.
Et pourtant, dans cet extrait, vous parlez.
Prenez la rue Lomont sur votre gauche, jusqu'à la petite place de l'Estrapade, où vous vous arrêterez un instant.
Pierre Rousset, pour ce qui concerne le Vietnam, pourquoi, pour votre génération, est-ce devenu le combat de ceux qui avaient votre âge et celles qui avaient votre âge ?
On se mobilise pour plusieurs raisons. Et dans chaque pays, la radicalisation étudiante ou jeune a ses propres racines, prend ses propres formes. On s'identifie très facilement avec le mouvement qui se produit dans le tiers-monde. Et l'épicentre de ce mouvement de libération dans le tiers-monde, c'est le Vietnam. Le Vietnam, d'abord, c'est la pire escalade militaire, c'est la barbarie. L'esprit révolutionnaire est là. Hein. Alors d'abord, en Europe, la dictature des colonels est toujours là. Le franquisme est toujours là. Le Portugal, la dictature est toujours là. Donc la clandestinité est toujours là. Si on veut avoir des rapports avec nos camarades en Espagne, on est obligé de le faire de façon clandestine, sinon on les met en danger. Moi, je suis interdit de pénétrer aux États-Unis, etc., en Allemagne, etc. Enfin, bon, voilà. Si on veut quand même voyager, ben, il faut des faux papiers.
Demandez le journal du Comité Vietnam National.
C'est-à-dire un militant du PS et un militant révolutionnaire, on ne vit pas de la même façon. Hein. Moi, je suis obligé de me taper les fascistes régulièrement, au sens strict du terme. Je suis chassé de la faculté d'Assas parce qu'on a perdu la bataille contre les fascistes dans la faculté d'Assas. Je ne peux plus y mettre les pieds. Si je m'approche de la faculté d'Assas, je me fais casser la gueule. Donc finalement, je vais à l'Institut de géographie.
Nous allons repartir pour rejoindre la place du Panthéon. Prenez à droite après la pizza du Panthéon. C'est la rue Clotaire.
Écoutez les mots sur les murs.
Le fond de l'air est rouge.
Voilà donc un extrait de cette balade sonore donc sur mai 68, réalisée l'année dernière par vous-même, Renaud Dalmar, ouais. Et qui prend la suite d'une certaine façon avec des nouveaux moyens, des nouveaux types de médias, puisqu'il s'agissait d'une balade sonore en son binaural, que l'on pouvait donc télécharger sur un site, sur son téléphone portable.
Tout à fait, j'aurais pu choisir un grand nombre d'extraits pour raconter la fabrique depuis que j'y suis, 2007, mais... Effectivement, ça me semblait intéressant de choisir cet extrait pour raconter aussi que la fabrique, ça a été a été très créatrice et expansive pas au sens excentrique, mais au sens de la mousse.
C'est-à-dire qu'on est impérialiste, vous voulez dire.
Voilà, non, mais on est un peu sorti du cadre, justement, et par exemple avec ce. Avec cette balade sonore géolocalisée.
Qui n'a pas été diffusée à l'antenne, il faut bien le préciser.
C'est pas une production pour l'antenne, c'est une production pour l'extérieur, pour aller se promener, pour emmener les auditeurs et les auditrices
avec les moyens
au quartier latin, avec les moyens sonores de la radio. Et je choisis cet extrait parce que d'abord, pour dire qu'on avait beaucoup inventé. On avait beaucoup cherché à la fabrique de l'histoire.
On avait beaucoup inventé. On s'est beaucoup planté aussi.
Je crois, on s'est beaucoup planté, mais on a inventé aussi. Et le documentaire historique se prête à ça. Donc, c'était très intéressant. Et je crois que c'est le rôle majeur de la radio, de service public aussi, d'expérimenter. Et puis, dans cet extrait, il y a aussi autre chose, c'est la démarche, l'approche du sujet par la fabrique de l'histoire. Là, c'est... Emmanuel me dit, on va parler de 68, mais on va pas être en mai 68, on va commencer en 66. Et je me souviens quand on est allé dire ça à la direction aux gens du numérique, qu'on allait commencer mai 68 en 66, ils nous ont regardé avec des yeux incroyables. Et Le début de ce documentaire, c'est « Je vais vous emmener vers une terre étrangère ». C'était il y a 50 ans, et 50 ans au XXe siècle, c'est le temps qu'il faut pour qu'un monde disparaisse. Et donc voilà, c'était l'idée de départ pour construire ce documentaire. Et donc on a commencé en 66. Et puis pour faire tout ça quand même, il faut le dire. Après je m'arrête. Oui, oui. Pour faire tout ça, il faut
manger le micro, vous savez, quand on est au beau.
Non, mais il faut dire que toutes les conditions étaient réunies à la Fabrique de l'Histoire. Une ambiance assez extraordinaire, un respect du travail de chacun. Un vrai travail d'équipe. Non, pas stop, stop pas stop. Stop. Il y a même un directeur qui a dit c'est un peu trop fusionnel à la Fabrique de l'Histoire. Voilà. Et pour moi, c'est quand même l'une des plus belles périodes de ma carrière de réalisateur.
Arrêtez, vous allez me faire pleurer.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces marcheurs?
Ils sont devenus comme leurs frères et leurs copains de quartier, chômeurs, détenus, étudiants, vendeurs de poulets au marché, pratiquants musulmans, parents, délégués parents d'élèves, musiciens, graffiteurs, mais en tous les cas tous précaires. Et c'est bien le problème, parce qu'on n'a certainement pas profité de l'échelle du mérite de l'action collective et citoyenne.
Tu veux que je te passe Amélie ? Je te passe Amélie, hein.
Farouk Sekai. Bonjour. Alors, vous voulez plus parler de la marche? Vous en avez trop parlé, vous voulez plus parler de la marche? C'était 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est aussi parce que vous avez envie de tourner la page? Vous en avez marre qu'on vous associe à chaque fois à cette marche? Amélie Meffre, Christine Robert. Oui, en même temps, c'est pas une marche qui change tout. Enregistrement à Lyon, Chantal Nouvelot, mixage, Bernard Charon et Philippe Mercher. Oui, oui, non, mais après ça devient un mythe, qui vous échappe aussi, non? Archivina, Stéphane Grant. On a vu Christian Delorme. On a vu Djida Tazaïd. Ouais. On a vu Jean Costil. On a vu Farid Lawa. Voilà. Avec également Nasser Ketan, Driss Eliazani et Mohamed Jalil. Ben oui, ouais, ouais. Et ben voilà, et on aurait voulu vous voir, vous aussi, les marcheurs des Minguettes. Parce qu'on parle beaucoup de vous, mais c'est dommage qu'on vous entende pas, quoi. D'accord. Ok, ben peut-être à demain, alors. Au revoir, Farouk. Farouk, finalement, ne viendra pas au rendez-vous.
Et voilà, il y a ceux qu'on veut faire parler. Amélie Meffre, bonjour.
Bonjour.
Et il y a ceux qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas parler. Parce voilà. Que c'est trop douloureux.
Voilà. Mais il y a un travail d'équipe, ce que disait Renaud. Et ça permet de choper des petites pépites. Parce que c'est pas du tout reconstitué. On était en train d'interviewer un gardien d'immeuble aux Minguettes. Et ce fameux marcheur des Minguettes appelle à ce moment-là. Et nous avons une preneuse de son qui est prête à enregistrer. Et nous avons Christine Robert, la réalisatrice, qui a le réflexe de dire on tourne, enfin de faire le signe on tourne et on tourne. Et donc voilà, la pépite est là.
Donc, la pépite, c'est le refus.
C'est le refus. Et je pense que d'après ce que je lui dis, on a bien compris que ça s'était mal passé pour ces marcheurs des Minguettes. Et ce qui était intéressant en faisant ce documentaire, c'est qu'on le fait en 2001. La marche, c'est 1983. Mmh. Donc on n'est pas dans un anniversaire ni dans une commémoration. Et donc ça veut dire qu'on a le temps de questionner un événement qui s'est avéré historique, je pense, pour plusieurs raisons, mais en dehors de la pression de l'actualité. Voilà. Et donc, cette médiatisation, on pourrait penser que cette marche était formidable, fabuleux, ils sont arrivés, etc. Et puis, on se rend compte l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on les a renvoyés chez eux aux Minguettes dans les mêmes conditions qu'on les a pris au départ.
Ça vous dit quelque chose, la marche des beurs, Mathilde Casteran, ou ce qu'on appelle la marche des beurs, alors que c'est la marche pour l'égalité, en l'occurrence, ou ça ne vous dit rien du tout?
Si, ça me dit quelque chose, en tout cas. Enfin, j'ai déjà vu.
Et pour vous, Chloé Leroy, ça vous dit quelque chose? Ou c'est trop, c'est vraiment de l'histoire, c'est même de l'archéologie.
5 ans, ouais. Mais oui, ça me dit quelque chose, c'est
Et vous, Darius, vas-y.
Oui, ça paraît assez loin, mais j'ai pu voir des archives de l'INA dessus, des émissions des années 80.
Ouais. Et oui, c'est ça, c'est que c'est devient des archives pour vous, comme, alors que pour nous, ce sont des morceaux de vie. C'est la vie qui passe et c'est le temps qui passe. Et le dernier arrivé dans la fabrique de l'histoire, c'est vous, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, bonjour Emmanuel.
Bonjour, vous êtes bonjour dans notre équipe depuis quelques années maintenant. Vous avez succédé à Perrine Kervan, qui est d'ailleurs en régie et que je salue, qui était partie pour faire d'autres émissions sur France Culture et qui dirige maintenant la série documentaire avec Marie-Vonne Abolivier, que je salue aussi, et qui était une des créatrices aussi de cette fabrique quotidienne. Alors vous, on va écouter le petit extrait sur Nitard, vous vouliez nous en parler ?
Oui, parce que justement, quand je suis arrivé, Perrine Kervan m'a dit « j'ai un sujet au chaud que je pourrais pas faire, je te le refile ». C'était un sujet médiéval, puisqu'on a beaucoup parlé de documentaires sur le second XXe siècle, on interroge souvent les témoins dans la fabrique, mais on peut aussi faire des documentaires sur l'Antiquité, sur le Haut Moyen-Âge en l'occurrence, sans forcément interroger seulement des historiens. On trouve des moyens, des dispositifs pour faire des documentaires. Et ce sujet que Perrine Kervan m'avait refilé était un superbe souvenir, donc j'en ai pris un petit extrait.
C'était donc Nitard, l'inventeur de la langue française, dit-on.
Nitard, celui qui a retranscrit les serments de Strasbourg qui étaient prêtés en lingua franca, en proto-français, donc le premier auteur de langue française, si on extrapole un petit peu.
Avec Véronique Samouilov à la réalisation.
Voilà. Il était ici, mais c'était extrêmement sale. Voilà, c'était extrêmement sale, au milieu de papier journaux, etc. C'est un carton exactement comme celui-ci, qui était ouvert avec des sortes de bulles. Et donc, j'ai pu voir, alors, sur le carton où était indiqué Nitard, une date de la poste. Il était rentré par la poste, qui indiquait une date de 1999. 18-19, c'était assez peu lisible. Donc, je pense qu'en fait, le laboratoire l'avait renvoyé après recherche, et que peut-être il est arrivé ici un jour, quelqu'un qui n'était peut-être pas là pour réceptionner, et qu'il a été ainsi, ils ont oublié, et donc en final égaré. Voilà l'histoire.
En 840, Eginhard meurt dans le monastère de Seligenstadt. Ce qu'était Eginhard pour Charlemagne, le secrétaire du palais et l'écrivain de son histoire, Nitard le devient pour Charles le Chauve, le secrétaire du palais et l'écrivain de son histoire. Les trois petits-fils légitimés de l'empereur mort s'entre-déchirent, se disputant l'empire. En juillet 840, Charles le Chauve envoie en ambassade le comte Nitard, accompagné de Laugier, auprès de Lothaire, qui refuse tout accord avec son plus jeune frère.
Nitard reçoit une commande de Charles Chauve, dont il est le proche, qui lui dit on est en train quand même de mettre en l'air l'Empire.
Bernard Serkiglin.
D'attaquer notre frère aîné légitime. Il faut quand même que tu racontes tout ça. Et donc le pauvre Nitard, qui passe ses journées à cheval, qui combat ou qui passe des heures dans des réunions diplomatiques, le soir à l'étape, écrit. Dans un latin d'ailleurs remarquable, c'est un homme extraordinaire. Et il écrit. Il écrit avec 2 mois de retard à peu près, il écrit tout ça.
Ayant souffert, vous et les vôtres, mon Seigneur, depuis déjà près de 2 ans, comme vous le savez fort bien, des attaques injustifiées de votre frère, vous m'avez commandé, avant d'entrer en la cité de Châlons, de fixer par écrit pour la postérité le récit des événements de votre temps.
Voilà donc un extrait de ce documentaire sur Nitard, supposé inventeur des premiers textes en langue française, voilà, que vous avez réalisé avec Véronique Samouilov.
Avec Véronique Samouilov et Manon Houssin, qui était notre technicienne. Et je voulais rendre aussi hommage à tous les techniciens de reportage avec qui on part pour les documentaires, parce qu'en l'occurrence, on partait dans une abbaye. Elle nous dit, c'est sonorisé comment? Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Parce qu'il y avait des performances. On ne sait jamais. Puis tous les techniciens, bon, il y en a plein. C'est au nom de toute l'équipe que je parle, de tous les techniciens du DPR qui nous accompagnent dans les reportages et qui font souvent un travail extraordinaire. Et puis là, on a pu entendre aussi ce qui est intéressant dans les documentaires, c'est d'articuler les voix, en l'occurrence, d'un linguiste, d'un écrivain, Pascal Quignard, de comédiens qu'on enregistre après. Et on a aussi travaillé avec beaucoup de comédiennes et de comédiens dans les documentaires de la fabrique. Et donc, ça fait des souvenirs, tout ça, très extraordinaire et très plaisant.
Voilà, et puis on va peut-être s'acheminer vers la fin de cette émission avec vous. Donc, Séverine Cassa, vous non plus, vous n'avez pas l'habitude du micro. Vous êtes réalisatrice à la Fabrique de l'Histoire. Et vous avez choisi un documentaire radio qui nous tient à cœur à vous et à moi, qui était donc 10 jours au Rwanda. Sachez que nous étions partis pour le 20e anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda, que nous étions accompagnés de certains rescapés de ce génocide, dont Emilienne Mukansoro, et que la maison d'Emilienne se situait à Mushubati, on est près du lac Kivu. Elle nous l'avait fait visiter et elle avait quitté cette maison en 73 quand elle s'était mariée, mais toute sa famille avait continué à y vivre jusqu'en 1994, l'année du génocide, et toute sa famille a été massacrée. C'est cet extrait que vous avez choisi parce que c'est un moment de grâce radiophonique, effectivement, qui arrive très peu souvent. Nous sommes au bord du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Avant notre retour à Kigali, Emilienne Mukansoro, rescapée du génocide, a tenu à nous conduire sur les ruines de sa maison familiale.
J'ai quitté la maison en 93. Je me suis mariée au début 93 pour ne jamais revenir. Parce que quand je suis revenue, il n'y avait plus personne. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous voulez connaître trop chose. Avant d'abord qu'on aille s'abriter parce que je vois que la pluie tombe, j'aimerais bien vous remercier. Vous m'avez ouvert les yeux. Quand j'ai fait voyage avec vous, c'est comme si je recommence une nouvelle vie. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'écrire l'histoire de ma famille, j'ai envie de raconter à ma fille son histoire parce qu'elle me pose toujours des questions. J'ai envie de construire ma maison familiale parce que je sens que je suis plus seule. Vous arrivez chez moi, il n'y a rien, je n'ai rien pour vous accueillir, je n'ai rien pour vous abriter. Et vous avez accepté d'arriver chez moi le soir et je me disais peut-être que vous vous sentez obligé. Mais je suis que vous n'étiez pas obligé, vous avez voulu venir vous-même. Et ça c'est beaucoup pour moi. J'ai envie de reconstruire la maison. Parce que c'est pas la même période. Avant, peut-être, on avait peur des témoins dans le judiciaire Gachacha. La personne qui habite ici m'a promis que si jamais je construis, peut-être, il va surveiller. Je vais aussi faire un monument. Comme j'ai pas pu enterrer les corps des miens, je n'ai rien trouvé comme corps. Alors, j'ai envie de faire un petit jardin devant, peut-être, ou derrière, je sais pas. Mais faire un petit monument où je vais écrire tous les noms des membres de ma famille.
Combien il y a de noms, Emilie?
Ah, c'est beaucoup. Parce qu'à part les 11, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a ceux qui, tous sont morts.
Quelque chose.
Oui, j'ai peur d'oublier les noms. C'est parce que c'est nombreux. Alors, il y a là une chambre pour les visiteurs. Quand vous allez revenir, on va passer la nuit ici. Si vous voulez bien. Quand vous allez venir, on va passer la nuit ici. Je vais. Il faut commencer la réservation.
On ira puiser de l'eau.
Ah, on peut puiser de l'eau de l'autre côté.
Tu peux entrer?
Oui, vous pouvez.
Bien.
Ouais, vas-y.
Voilà donc cet extrait de ces 10 jours au Rwanda que nous avions réalisé avec vous, Séverine Cassard, donc à l'occasion d'un voyage d'historien et d'historienne avec des témoins, donc au Rwanda à l'occasion du 20e anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda.
Oui, juste dire que si j'ai choisi de faire entendre cet extrait ce matin, c'est que c'est, je crois, le plus beau moment de radio que j'ai vécu à la Fabrique. Juste recontextualiser, nous n'avions pas du tout prévu avec Emmanuel d'enregistrer ce moment. C'était à la toute fin de notre mission. Moi, je repartais pour Paris le soir même et nous avions déjà en boîte beaucoup, beaucoup de matière pour ce documentaire. Nous avions pris un bus pour aller voir la maison d'Emilienne. Le trajet avait été assez long. L'ambiance entre nous tous était joyeuse et détendue. Et une fois sur place, au moment de quitter le bus, de rejoindre le groupe, je me souviens avoir posé mes yeux sur mon enregistreur que je gardais toujours avec moi. Je me souviens d'avoir hésité à le prendre et finalement, je l'ai pris. Emilienne, elle avait déjà commencé à parler au groupe et à lui présenter sa maison, enfin, les ruines de sa maison. Et du coup, sans réfléchir, je me suis faufilée, je me suis approchée d'elle, tout près, et je l'ai enregistrée. et il m'a laissé faire. Et ce moment a duré une vingtaine de minutes. Plus tard au montage, avec vous Emmanuel, nous avons beaucoup hésité à intégrer une partie de cette séquence. C'était un moment privé, émotionnellement très fort. Emilienne pleurait, le groupe entier pleurait. Mais nous l'avons quand même fait, et c'est d'ailleurs la séquence finale du documentaire. Et puis quelques mois plus tard, Stéphane Audouin-Rouzeau, donc historien de la Grande Guerre, spécialiste des violences de guerre et du génocide des Tutsis du Rwanda, qu'on a pu entendre dans l'extrait, m'a demandé une copie de cet enregistrement. Et à ma grande surprise, il y a consacré quelques pages dans son ouvrage paru 2-3 ans après, au Seuil, une initiation, Rwanda 1994-2016. Il a aussi écrit dans la revue Sensibilité, consacrée en mars 2017, consacrée donc à la notion de maison, un article sur la maison d'Emilienne. Et donc cet enregistrement sonore est devenu pour lui une source. Et c'est pour ça aussi que j'ai proposé de le réécouter ce matin pour cette dernière fabrique. Car se mêle ici tout à la fois le travail de radio, le documentaire de terrain et le travail de l'historien. Et je ne l'avais pas du tout prévu ça en appuyant sur la touche REC de mon agra.
La touche enregistreur. Merci beaucoup Séverine. Il faut dire que dans les années d'après-guerre, le laboratoire de la radio s'appelait ici le club d'essai. Alors à la fabrique, on a beaucoup essayé. On a, je l'ai dit déjà, parfois mal réussi ce qu'on voulait entreprendre. Mais on a essayé, on a tenté des choses et à plusieurs reprises, on a pu réussir. Parce que la radio nous en a appris beaucoup pendant ces 20 années. Et personnellement, beaucoup encore de la rencontre avec ces voix qui tremblent au souvenir d'un événement historique douloureux, comme c'est le cas d'Emilienne, mais également de ses voix d'archives sereinement rattachées au discours de préau d'école, de cet tâtonnement de la pensée en train de se construire dans un débat historiographique ici en direct dans un studio, ou encore de ces vastes espaces sonores réverbérant qui laisse entendre la majesté des monuments sans les voir. Bref, cette puissance aveugle et fière de l'être de la radio qui nous transmet le rythme et la raison. Par elle, nous avons accumulé des témoignages, enregistré des situations entre mémoire et histoire, et surtout confirmé peut-être le commandement édicté, paraît-il, c'est sûrement apocryphe, par Orson Welles, que l'avantage de la radio sur le cinéma, c'est que l'écran est plus grand. Merci donc à ce médium souple et exigeant qui, en 20 ans, a su changer, a su évoluer. On a parlé des podcasts, on a parlé aussi de ces podcast natif ou encore de ces balades sonores en déplacement. Et merci à celles et à ceux qui le fabriquent encore et à celles et à ceux qui, de l'autre côté du poste, sur leur ordinateur ou sur leur téléphone intelligent, l'écoute et le commente. Alors merci aux attachés de production, aux dizaines de producteurs et de productrices, aux techniciens, aux techniciennes, aux réalisateurs et aux réalisatrices qui ont fabriqué la fabrique, et à bientôt sur les ondes, parce que dès la rentrée, il faut le savoir, le 26 août, à la même heure, une émission vous propose à chaque jour de la semaine l'actualité de l'histoire et la réflexion sur la place du passé dans notre présent. Bienvenue à eux et bienvenue à vous, Daniel Koenigsberg. C'est pas facile, mais c'est à vous de terminer.
C'est un plaisir.
Ces choses mobiles que le temps et qui apparaît comme en ombre, avec la matière coulante, fluente, toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente. À qui appartiennent ces mots, devant et après? Et a été ou sera, lesquels tout de prime face montrent évidemment que ce n'est pas chose qui soit, car ce serait grande sottise et fausseté tout apparente de dire que cela soit qui n'est pas encore en être ou qui déjà a cessé d'être. Et quant à ces mots, présent, instant, maintenant, par lesquels il semble que principalement nous soutenons et fondons l'intelligence du temps, la raison le découvrant le détruit sur le champ, car elle le fend incontinent et le sépare en futur et en passé, comme le voulant voir nécessairement départi en deux. Autant n'advient-il à la nature qui est mesurée comme autant qui la mesure, car il n'y a non plus en elle rien qui demeure, ni qui soit subsistant. Ainsi y sont toutes choses, ou nées, ou naissante, ou mourante.
Et voilà donc terminé cette fabrique de l'histoire de 20 ans. Merci à Marion Dupont qui a préparé cette dernière émission. Merci à Céline Leclerc, à Clément Daté qui était à la technique. Et un grand merci à Anne Fleury. Et on me pardonnera de rendre l'antenne avec 25 secondes de retard.